Maribine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Ce samedi 17 octobre, la librairie Ravie de Quimper a eu l'excellente idée d'inviter une écrivaine pour la sortie de son dernier roman, Les Roses Fauves, une romancière que j'affectionne particulièrement. Bonjour Carole Martinez.
Bonjour Jeanne.
D'ailleurs, à propos du mot écrivaine, quel est le vocable que vous préférez parmi les nombreux mots que l'on utilise pour parler d'une femme qui écrit ? Parce qu'il y a plein écrivains, écrivaines, auteurs, autrices, auteurs.
Bon, justement, le problème s'est posé parce que moi, j'ai une femme qui écrit, qui est la narratrice du roman Les Roses Fauves. À la base, mon terme, celui que j'utilise, c'est romancière. C'est simple, parce qu'en fait, la voie est déjà ouverte. Et après, la question s'est posée, est-ce que j'utilise auteur ou avec un E ? Mais moi, je ne dis pas auteur-e, parce que ça n'a aucun sens. Ce n'est pas parce qu'il y a un E au bout qu'il faut dire auteur-e, c'est juste auteur. Et j'avoue que moi, j'avais un peu de mal avec autrice. Je trouvais que ça faisait actrice, je trouvais que ça faisait... Je ne sais pas, enfin, ça me gênait un peu. Je préférais le terme auteur, juste rajouter un E. Féminisée, parce qu'en fait, professeur, qu'est-ce que ça va devenir ? Ça va pas devenir professrice, alors que ça peut devenir professeur avec un E, et puis on n'en parle plus, quoi. C'est joli. Il y a plein de noms comme ça qui vont être difficiles si jamais on veut mettre RIS à la fin à chaque fois, ou S, que je trouve affreux, doctoresse. Moi, je suis désolée, j'aime pas doctoresse, je préfère docteur, avec un E. Voilà. Le E, c'est la marque du féminin, ça me plaît assez. Si, il faut mettre une marque, parce que je pense que moi, j'ai toujours vu le masculin comme du masculin et du neutre. Donc, en fait, ça ne m'a jamais gênée, quoi. Ce qui m'a gênée, c'est quand en grammaire, on dit le masculin l'emporte sur le féminin, ça me dérange. Mais à partir du moment où on décide qu'il y a du neutre en français, moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien. Et ça modifie la façon de penser, même. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas de neutre, hein. Quasiment pas. D'ailleurs, ça manque parce qu'on est soit blanc, soit noir, soit féminin, soit masculin, soit pour, soit contre. Ben non, non. Parfois, on peut être neutre. Et c'est pas parce qu'on est neutre qu'on est lâche. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et on a un problème en France parce que la neutralité, bah ouais, je suis désolée, on n'a pas un avis sur tout. Non, des fois, on est neutre. Des fois, on n'est ni pour, ni contre. Ça arrive, bah ouais. Et ce côté choisis ton camp me casse terriblement les pieds. Et je trouve que c'est vraiment un souci aujourd'hui, maintenant, parce que du coup, ça amène le monde à se polariser, d'une façon générale, la France en particulier, puisqu'elle n'a pas de neutre, et à se polariser pour tout et n'importe quoi. Et donc, la polarisation, à terme, c'est aussi la radicalisation. Et donc, j'aime l'idée qu'il y a la possibilité de penser le neutre. Donc moi, je serais pour que on commence à introduire et à penser le neutre dans la langue française.
Quel âge avez-vous commencé à écrire ?
J'ai commencé à écrire, en fait, à écrire dès que j'ai pu, quoi, je crois. Enfin, dès que j'ai appris à écrire. Après, de la fiction ou m'amuser en écrivant des histoires, c'était en CM2. C'était ma première rédaction. Et j'avais un sujet débile. J'adorais ma professeure, mais c'était quand même un sujet débile. Le sujet, c'était raconter vos vacances. Et il se trouve que cette année-là, j'étais allée en vacances avec mes grands-parents et mon frère en Espagne pour la première fois. Et donc, je passais une frontière pour la première fois. On partait en Renault 12. Ils avaient acheté une Renault 12 spécialement. Avant, ils avaient une vieille Dauphine qu'ils n'auraient jamais tenue jusqu'en Espagne. Donc ils avaient acheté la Renault 12. En plus, les pauvres, ils l'avaient attendue 6 mois. Et elle était au bout du camion. Et le camion s'était pris un arbre. Et donc la Renault 12 avait un coffre tout abîmé. Et ils voulaient partir en Espagne, mes grands-parents, avec leur Renault 12 et leurs petits-enfants. Et donc on leur a dit, on n'a pas de coffre de la couleur de votre Renault à mettre. Mais si vraiment vous la voulez, on vous met un coffre d'une autre couleur. Ah, ils ont accepté un coffre blanc avec 2 rayures noires, genre Renault 12 de sport. Et la Renault 12 était grise. Et en fait, ils avaient la seule Renault 12 de sport avec mon grand-père qui conduisait à 60 km/h à peu près en moyenne. Et donc, j'avais raconté ça. Et puis, sur mes racontez vos vacances. Et j'avais raconté ma déception. Parce que j'avais imaginé ce que ça représentait de traverser une frontière. Et j'avais imaginé que j'allais le ressentir physiquement. Que c'était comme s'il y avait une membrane, quelque chose, quoi. Et un avant et un après. La frontière s'était matérialisée forcément par quelque chose que j'allais ressentir dans mon corps. Et donc j'avais demandé à mes grands-parents de me réveiller pour le passage de la frontière entre la France et l'Espagne. Et ils m'avaient gentiment réveillée. Et en fait, j'avais rien senti. Et donc, j'avais été hyper déçue. Et j'ai raconté ça à ma prof, Madame Kieffer. Et il se trouve que... Mais quel bonheur, en fait, cette femme. Elle a aimé. Elle a trouvé que c'était super, vraiment, que c'était drôle, que c'était... Et elle l'a lu à la classe, et la classe était morte de rire. Et donc, en fait, j'avais éprouvé du plaisir à l'écrire. J'avais une super bonne note. Et en plus, j'avais le plaisir de la réception, à savoir que la classe riait et me disait que c'était super. Donc en fait, j'avais tous les plaisirs que tu peux avoir quand t'écris. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai aimé écrire. Ouais, je pense que ça a été une forme de déclic. Après, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à tirer de ça, quoi. Que c'était c'était égoïste. Hein. Je faisais pas ça pour les copains. Je faisais ça pour moi, parce que ça me faisait plaisir de les entendre rire. Oui, c'était une vraie joie, quoi. C'était génial. Alors après, quand on disait rédaction, j'étais super contente. Quand on disait contrôle de match, j'étais moins contente.
Surprise, en plus.
Pire, c'était Monsieur Cerisier. Monsieur Cerisier. Ah ouais, Monsieur Cerisier. Je sais pas si Renaud l'a eu, Monsieur Cerisier. Eh bien, bonjour, asseyez-vous, sortez une demi-feuille de papier, interrogation écrite. Tous les matins. Donc en fait, c'était pas surprise, c'était tous les matins. Mais c'est extraordinaire, ce mec m'a appris à compter. Il m'a appris à compter, c'était du calcul mental. En fait, il disait 1200 fois 142. Et tu devais écrire le résultat directement. Tu notais même pas, en fait, la consigne. Et puis après, il disait 53 fois 16. Mais c'est extraordinaire, ce mec m'a appris à compter. Donc Madame Kieffer m'a appris à avoir du plaisir à écrire. Et Monsieur Cerisier, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais après, comptez.
Les roses fauves. Alors, je vais juste quand même reciter les titres des 3 précédents ouvrages parce que je les trouve jolis, en fait, les titres. Le cœur cousu, Du domaine des murmures et La terre qui penche. Comment se fait le choix du titre d'un ouvrage ? J'ai cru comprendre que ce n'était pas toujours l'auteur, en fait, qui choisissait le titre. Parfois, c'était l'éditeur.
J'imagine que c'est différent en fonction des auteurs, que c'est jamais la même chose. Hein. Jean-Marie Laclaftine, mon éditeur chez Gallimard, a trouvé le titre « Le cœur cousu ». À l'époque, j'avais 40 ans, c'était mon premier roman, j'étais une toute petite jeunette. c'était mon premier roman, il avait été accueilli comme ça alors que j'étais prof et que je connaissais personne et... Il avait été accepté alors que j'avais déposé à l'accueil chez Gallimard. Je veux dire, quand il m'a dit « la traversée » ou « traversée » parce que j'avais enlevé le « a », ça avait déjà été pris par Philippe Labro, « la traversée ». Donc j'avais été obligée d'enlever le « la », j'avais pris « traversée ». Et il m'a dit « bon, vous êtes passé à l'unanimité en comité de lecture, tout, même le titre, mais franchement le titre est mauvais ». J'embêtais, c'était quand même mon titre. Ça faisait longtemps, ça faisait 15 ans que j'avais ce titre en tête avec ce roman qui n'en finissait pas. Et donc, il m'a proposé Le cœur cousu. Oh là là, j'aimais pas, je trouvais que ça faisait chambre de fille. J'imaginais ma cousine que j'adore et qui avait beaucoup de cœur à l'époque, partout dans sa déco. J'aime beaucoup ma cousine, mais j'aimais pas sa déco. Donc en fait, je me disais, mince, c'est pas mon roman, parce que Le cœur cousu, c'est juste un chapitre du roman et où il est question du cœur de la Vierge. Mais en fait, j'ai pas été très courageuse et du coup, j'ai accepté le titre qu'on m'a proposé. Finalement, je l'ai vachement aimé après dans la suite parce qu'une lectrice me l'a rempli d'une tradition espagnole que je développe maintenant dans Les Roses Fauves. Du domaine des murmures, ça, au début, ça devait s'appeler Les Soupirs de la Sainte et les Cris de la Fée. C'est Jean-Marie, encore mon éditeur, qui m'a dit trop long. Oh, j'étais là, trop long, c'est pas vrai. D'ailleurs, ma fille de 7-8 ans, même pas, elle adorait ce titre, Les Soupirs de la Sainte et les Cris de la Fée. Mais en fait, je me suis aperçue que c'est vrai que personne ne connaissait forcément comme moi. Et moi, j'adore le dernier vers d'Elsie Chado de Gérard de Nerval. Et ça, c'est une référence à ce vers-là. Et qu'en fait, les gens ne retenaient pas si bien Les Soupirs de la Sainte et les Cris de la Fée. Donc, quand je me suis aperçue de ça, même si Jean-Marie m'a dit finalement, tu peux le garder, j'ai cherché autre chose. J'avais Le Domaine des Murmures, mais alors les copains me disaient, ça fait un peu pinard. Donc, j'étais embêtée, quoi. Il fallait que je trouve autre chose. Alors j'ai mis du devant, du domaine des murmures. Comme ça, c'était un double sens avec ce qui est de l'ordre du murmure, donc ce qui n'a jamais été dit haut et fort. Et puis c'était aussi comme mon château s'appelait, le château que j'ai bâti en Franche-Comté, mais je l'ai bâti sur le plan de l'imaginaire, quoi, avec des pierres d'encre et de papier. Ce château que j'ai bâti dans la vallée de la Loue, en fait, je l'avais nommé Le Domaine des Murmures, et donc ce qui vient de ce château-là, donc du Domaine des Murmures. Donc ça, c'était pour le titre du Domaine des Murmures. Et pour La Terre qui penche, là, j'ai visité avec Puisqu'en oubli, qui est une chanson du 14e, une chanson plutôt savante, un beau texte. On entendait Puisqu'on oublie. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai encore fait, il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé ce titre pour un texte que j'ai fait pour France Inter. Et ils n'ont pas noté « puisqu'on oublie », ils ont noté « puisqu'on oublie ». Donc comme quoi, vraiment, ça reste. J'ai hésité longtemps, puis en fait, ça a penché du côté de La Terre qui penche, mais c'était mon titre. Et Les Roses Fauves, il y a eu une petite bataille avec mon éditeur, parce qu'à la base, c'était... moi, Les Roses étaient là depuis très très longtemps, et il y a une autre auteure qui voulait utiliser le mot « rose » dans son titre, et c'était un peu gênant à la base qu'il y ait deux romans avec « rose » dans leur titre à la rentrée littéraire. Et en fait, comme l'auteur en question est parti chez Actes Sud, ça posait plus de problème. Donc j'ai pu utiliser mes roses fauves. Et ça, j'aime beaucoup parce que les roses fauves, c'est à la fois fauve, une couleur. J'aime bien les doubles sens, hein. J'aime bien jouer là-dessus. Et fauve le félin, puis cette idée de prédateur, puis aussi un courant artistique. Donc en fait, j'aimais bien, quoi. J'aimais bien cette idée de mélanger du végétal et de l'animal, hein. Et tous ces sens associés, quoi, ça me paraissait bien, ça me plaît. C'est ce vertige un peu baroque me plaît.
Deux grands thèmes, moi, non pas dans ce livre-ci, mais dans l'ensemble de vos quatre romans, c'est la femme, parce qu'elle est omniprésente. C'est toujours les femmes qui font l'histoire, qui sont dans les histoires, qui racontent les histoires. Elles sont toujours merveilleuses ou pas, mais elles sont toujours extrêmement présentes. Et la nature. Alors, sur les femmes, d'abord, est-ce que vous avez déjà envisagé d'écrire autour de la masculinité, sur un rôle masculin, parce que souvent quand même ils sont pas terribles quand même les garçons dans vos romans, ils ont pas toujours des rôles très glorieux. Les femmes, oui, beaucoup plus.
C'est vachement drôle ce que vous dites, parce que vous êtes pas la seule à me dire ça. En fait, quand on regarde précisément, les hommes et les femmes, ils sont aussi défaillants les uns que les autres dans mes romans. Il y a des mères qui n'arrivent pas à aimer, il y a des mères qui embarquent leur famille et leurs enfants sur des kilomètres et des kilomètres de marche jusqu'à avoir les pieds détruits et qui ne sont pas capables d'embrasser leurs filles, jamais, et qui abandonnent leurs enfants dans des trous comme des graines. Des femmes qui sont extrêmement dures et violentes et il y a des hommes très tendres. Donc c'est, il n'y a pas que des ogres dans mon œuvre. Il y a Jehan de Haute-Pierre qui a un père absolument merveilleux, qui est un Joseph. Parce qu'au XIVe siècle, justement, la figure de Joseph a été mise en valeur par les ordres mendiants. Et donc s'il y a un moment justement où ce personnage sublime, je trouve, qui est Joseph, a conquis les cœurs et les esprits, et même le masculin, c'est le XIVe siècle. Mais voilà, donc en fait, je pense avoir des hommes absolument magnifiques. Des hommes qui sont plus beaux, et même plus beaux que mes femmes dans l'œuvre. Et en fait, le problème, c'est que je ne mets pas les hommes au centre. Et c'est ça, en fait, la différence. Je mets les femmes au centre. C'est juste ça. Et du coup, bah, les femmes sont dans une position, elles trônent. J'ai toujours une narratrice qui est une femme, et moi je m'amuse, mais vraiment, et c'est ce qui me plaît, et c'est ce que je ferai, je pense, jusqu'au bout, c'est de mettre une femme au centre. Parce que j'en ai manqué quand j'étais gamine, parce qu'il y avait beaucoup de héros, mais peu d'héroïnes, et que c'était une gymnastique qui me plaisait assez, moi, en tant que lectrice, hein. Je le dis souvent, mais être Julien Sorel, c'était super, être Rastignac, c'était super, être D'Artagnan, c'était super, ça m'a jamais gênée d'être un homme. Dans mes lectures. En revanche, j'ai l'impression que cette gymnastique, eh ben, les lecteurs ne l'ont pas forcément faite. Ils n'ont pas eu cette possibilité. Donc, c'est un copain qui me disait dernièrement, mais Carole, quand est-ce que tu mettras un homme au centre ? Ben non, non. Je ne pense pas servir sur le plan du sublime, du grotesque ou du monstrueux, servir plus les femmes que les hommes, mais je pense leur laisser une place qu'elles n'ont pas forcément eue dans l'histoire de la littérature jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'héroïnes qui ont vraiment une place prépondérante. Mais c'est assez nouveau, ça. C'est-à-dire qu'à part dans la littérature anglaise et dans le théâtre, finalement, il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins. On ne laissait pas cette place. À part Madame Bovary. Mais qui a envie d'être Madame Bovary ? Ou, je ne sais pas moi, Manon Lescaut, mais même Manon Lescaut, en fait, elle est racontée par des hommes. Hein. Donc, c'était intéressant d'avoir une narratrice et des narratrices femmes et d'être au centre. Et ce copain, là, qui m'a dit, mais quand est-ce que tu mets un homme au centre ? Je lui ai dit, ben non, je ne vais pas le faire. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine fois, ce n'est pas ce que je vais faire tout de suite, mais je le ferai un jour, je prendrai le Christ, je l'excentrerai et je mettrai Marie-Madeleine au centre. J'ai plus envie de ça. Ça ne m'empêchera pas le Christ d'être le Christ. Enfin, vous voyez ? Et Marie-Madeleine, d'être Marie-Madeleine, juste, les choses se verront à travers un regard féminin. Et j'aime cette idée d'imposer cette gymnastique au lecteur, d'entrer dans le corps d'une femme. Mais comme ça, par la lecture.
Une question qu'aucun journaliste jusqu'ici ne vous a posée et que vous aimeriez qu'on vous pose, et quelle est-elle ?
Oh non, mais là, alors du coup, il faudrait que je réfléchisse, parce que j'oublie à chaque fois les questions qu'on me pose, j'oublie même ce que je réponds. Peut-être, je sais pas, non, je sais pas du tout, aucune idée. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me pose comme question ? Je suis désolée, je suis pas journaliste. Non,
j'ai une autre question beaucoup plus facile.
Ah bah, je veux bien alors.
Alors, quel est votre plat préféré de la saison automne-hiver ?
Alors, comme je suis très simpliste, j'aurais tendance à dire les bonbons piments que je suis en train de manger là. Ils sont vraiment très très bons.
C'est vous qui les faites ?
Mais pas du tout, on les a achetés au marché de Quimper. C'est super bon. C'est saveur des Indes, je crois. Je pense que saveur indienne ou saveur des Indes. Mais il y a aussi, ah oui, ça c'était super bon, on a mangé ce midi, les sushis et les makis. Hein. Pareil qu'on trouve au marché là, à Quimper. Il est juste génial, c'est les meilleurs makis du monde. Hein. Donc c'est sans saison, c'est tout de suite, il faut aller manger ces makis. Hein.
Alors la deuxième question va tomber à plat. Quel est votre plat préféré de la saison printemps-été ?
En fait, j'ai pas de saison. C'est ça. En fait, qu'est-ce que j'aime ? J'aime beaucoup ce que je viens de manger en général. Après, j'oublie. En fait, le problème, c'est que j'ai peu de mémoire. C'est pour ça d'ailleurs que je dois être absolument obsessionnelle pour entrer dans un roman et que ça me prend vraiment beaucoup de temps parce que j'oublie constamment ce que j'imagine, j'oublie ce que j'ai goûté, j'oublie. Et il faut que je le goûte beaucoup, longtemps, souvent, pour. Et il faut que je lise énormément, que je relise, pour arriver à m'imbiber d'un truc et arriver à le retenir. C'est peut-être ça aussi finalement. Là, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu d'imagination parce que. Comme j'oublie constamment, il faut que je réinvente. Voilà.
Vous êtes une formidable conteuse et c'est incroyable parce que moi, en général, dans les livres, j'aime bien savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est de la fiction, ce qui est de la semi-réalité. Parce que là, dans Les Roses Fauves, vous mélangez parfois complètement la fiction, ce qu'on pense pouvoir être la réalité. Enfin, il y a des histoires incroyables à Morissette avec ses beaucoup de souvenirs. Vous avez une imagination mais débordante et on ne sait plus à un moment ce qui est de l'ordre de la fiction, de la réalité. Et en fait, ce n'est pas grave. On se laisse complètement porter dans le flot de votre imaginaire foisonnant.
Je ne sais plus moi-même très bien ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, ouais. Ce qui est de la réalité, ce qui est du merveilleux, c'est... Mais je pense qu'on est tous... on est tous des menteurs. Je pense qu'on romance tous notre vie plus ou moins bien parce qu'on est plus ou moins doué pour la romance et pour la cohérence. Mais je pense qu'on bricole tous notre passé, notre futur quand on est gamin et qu'on s'invente des trucs et des machins, qu'on rêvasse et qu'on imagine des histoires d'amour et qu'on imagine... Alors après, il y en a qui sont plus ou moins brillants, qui imaginent plus ou moins bien, d'ailleurs même les personnes qui sont à côté d'elles. Je pense que quand on tombe amoureux aussi de ce que l'autre bricole autour de nous et du regard qu'il porte sur nous et qu'il y a des gens qui bricolent merveilleusement bien et puis que c'est pareil, que finalement... faut faire attention, mais je pense qu'on peut pas s'empêcher de bricoler nos enfants. Je pense qu'on bricole nos parents. Je pense que voilà. Et donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? On est constamment sur le seuil. Des fois, je me réveille, j'ai rêvé que j'arrivais plus à marcher et j'ai vraiment la sensation que je peux plus marcher. En fait, c'est pas vrai. Mais en tout cas, au moment du réveil, j'ai ce doute. Vous voyez? Et puis on oublie constamment qu'on va mourir. On s'invente une histoire incroyable quand même pour arriver à oublier ça. Donc oui, on s'invente constamment des histoires pour se justifier, pour justifier notre existence, pour au contraire nous faire du mal. On s'invente des cauchemars, la peur. On vibre de joie, de peur, de peine, de qu'est-ce qui est vrai. Je sais pas, c'est vraiment compliqué. C'est de la philosophie, je suis nulle en philosophie.
Mais vous êtes très bonne romancière. Merci beaucoup, Carole Martinez.